J'avais fait une espèce d'autocensure en disant on ne parle en termes de temps que du chronos qui est là-bas, et puis la scolée, cette espèce de pause pour essayer de s'écouter mutuellement. Et j'ai entendu très brièvement Colette disait, mais il y a aussi le kairos. Et bien, votre question maintenant oblige à ouvrir sur le kairos. Le kairos, c'est aussi un temps des Grecs. Mais c'est un temps qui ne prend pas de temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important, celui-là. Et il ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais il faut avoir conscience de son existence. C'est un outil qui peut servir même quand on n'a pas le temps chronos. Voilà. Alors j'explique un peu. À moins que vous sachiez tout à fait ce que c'est que le temps kairos. Alors, chez les Grecs, comment ? Chez les Grecs, le temps kairos, il est personnalisé, enfin il n'est pas personnalisé, il est incarné par un athlète qui, comme d'habitude, ou traditionnellement chez les Grecs, court nu dans un stade, et même son corps, on l'a pour le coup enduit d'huile d'olive. Et cet athlète qui court dans le stade a une mèche consistante. Le jeu du kairos, cet athlète s'appelle un kairos, le jeu du kairos consiste à laisser l'athlète courir et à l'attraper au passage par sa queue de cheval. Voilà. Et c'est ça qui, originellement, permet maintenant, dans notre culture à nous et notre temps à nous, de parler du kairos comme d'une occasion qu'on saisit. C'est quelque chose qui passe, mais pour que ça soit saisi, il faut qu'on le repère, qu'on y soit sensible, et qu'on ait le bon geste au bon moment bien coordonné. Ça veut dire quoi, ça, dans un temps de consultant, peut-être aux urgences, ou dans un autre service? Eh bien, c'est « je suis en consultation, j'ai passé le temps de consultation en essayant d'être le plus rigoureux, attentif possible à l'égard de la personne qui est venue. Peut-être que je la voyais pour la première fois, peut-être pas. Admettons, pour être plus précis, et être dans la journée d'aujourd'hui. C'est une annonce. Et une annonce de mauvaise nouvelle, c'est peut-être une leucémie. Une leucémie pas urgente au point que je suis sûr que celle-là, elle ne va pas rentrer chez elle, il faut la traiter tout de suite, mais il y a peut-être la possibilité de réfléchir sur quelques semaines. Vous savez qu'elle est leucémie aiguë, elle est chronique, donc il y a cette marge. Et donc, j'ai essayé de commencer à lui parler, et comme ça a été dit aujourd'hui, j'ai pas, en la flairant un peu, en l'écoutant, en voyant ce qu'elle voulait savoir, pas savoir, le mot leucémie me paraissait encore un peu tôt à dire. Et donc, nous avons parlé, le temps s'est terminé, il y a des gens qui attendent dans la salle de consultation, là, dans la salle d'attente, et donc, on se donne un nouveau rendez-vous, je voudrais vous revoir, vous reparler, vous réfléchissez entre-temps à ce que je vous ai dit, et on se revoit, c'est important. Très bien, docteur. Je mets la main sur la poignée de la porte, je l'ouvre un peu, je vois la file des gens qui attendent, et de l'autre côté, la dame me dit, mais je vous ai bien écouté, mais je suis en train de me demander, excusez-moi de vous le dire comme ça maintenant, mais est-ce que ce que j'ai là, ce ne serait pas une leucémie? Bon, ben, j'ai le choix là. Oui, j'ai le choix. Manifestement, il faut faire le diagnostic. C'est vraiment un kairos qui se présente. Et si on considère que c'est un kairos qui se présente, c'est une occasion où là, ce que j'ai essayé de faire et qui ne paraît pas avoir réussi, là, si je prends ça au vol, elle va sans doute beaucoup cheminer et ce sera autant de gagner pour l'adapter à toutes les difficultés qui vont venir. Ou alors je vois et je garde en tête tous ceux qui m'attendent à fil, ça c'est le côté chronos, et je dis oui madame, j'ai bien entendu ça, mais on va le faire la prochaine fois. Je retiens ça, c'est important, on va le faire la prochaine fois. C'est possible de faire ça, c'est pas illégitime, mais sans doute, l'expérience le montre, qu'on sera plus efficace dans l'information, qu'on sera et que ça aidera davantage la personne de lui donner tout de suite une réponse. Sinon imaginez, attendez la prochaine fois, elle va rester dans son angoisse, est-ce que c'est une leucémie ou pas une leucémie, jusqu'à la prochaine.
Enfin, bon.
Et ça va pas régler sa question, puisque voilà. Ou même si elle a une leucémie, elle va trouver autant de leucémie que de marques de voiture, elle ne saura pas quelle est la sienne. Donc voilà, donc là, eh ben, Kairos à se saisir, ils vont attendre un peu plus, et on prend le temps. Ça résout très peu de choses, sinon peut-être quasiment rien dans votre pratique concrète, mais ça, je sais d'expérience que en arrivant à saisir ça comme des occasions, eh bien, il y a des choses qui peuvent se faire pendant qu'on fait un soin technique, un geste, un sourire, un mot simple, qui ne prend pas de temps et qui véritablement fait avancer ou approfondir une confiance ou une relation. Ça ne règle pas tout. Ça n'empêche pas d'aller prendre ensuite des brancards et d'aller dans la rue pour indiquer que c'est pas possible de continuer comme ça. C'est vrai, ça. C'est tout à fait possible, ça aussi. Mais il ne faut pas jouer l'un contre l'autre. Essayons aussi d'avoir ce rapport au temps, kairos, pour être plus en humanité avec les gens. Ça, je le dis à partir de mon expérience, c'est possible. Pas toujours. Je me suis trompé. Souvent, des fois, où j'ai pas dû le saisir, où j'ai fait le mauvais choix. Mais il y a des fois où je sais l'avoir fait et c'était bien.
Anne-Sophie, ça m'interpelle énormément ta question, parce que pendant longtemps j'ai voulu être urgentiste, puis maintenant je suis en soins palliatifs et douleurs, j'ai des créneaux de 30 minutes à 1 heure par patient. De temps en temps, j'ai pas du tout l'expérience que tu as, t'es urgentiste expérimenté, mais moi de temps en temps je retourne faire des gardes aux urgences. Alors forcément il y a un choc, mais je les vis bien ces gardes parce que, alors c'est pas du tout les mêmes créneaux, c'est pas du tout les mêmes objectifs, mais parce que j'ai plus eu de temps pour réfléchir à ma pratique, parce que j'ai eu plus de temps pour ce que j'ai appris en douleur, c'est quoi mes valeurs dans le soin. Et je veux que la personne elle se sente respectée, qu'elle ait eu l'information qu'elle avait, et si c'est qu'elle a mérité et qui lui appartienne. Et si ces deux conditions sont remplies, ben, je me sens bien en sortant du box. Même si j'ai été plus sévère, parce qu'il faut cadrer les patients, j'ai été loyale. Et j'ai aimé la personne. Et j'ai rempli mon rôle dans ces locaux-là. Et je pense que c'est... Alors, les circonstances aux urgences sont ce qu'elles sont, mais on peut retrouver... le respect pour notre travail à travers des valeurs qu'on a bien définies. Mais j'ai même pas fini mon internat, donc c'est mon début de réflexion par rapport à ça.
Et je comprends ta question, enfin, elle m'interpelle aussi parce que je me posais la même question. Et surtout dans le contexte des urgences, j'ai travaillé 6 ans aux urgences, et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir donner ce temps kairos. D'autant plus qu'il y a, il y a l'action de tyrannie de l'urgence, il y a des patients qui arrivent tout le temps. Il y a toute une équipe qui stresse. Parfois, on avait une infirmière qui avait 3 patients en salle d'attente. Bah, là, c'était le stress total. Et on vous disait que c'était l'inverse qu'il aurait fallu faire, mais bon, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que, en plus, les urgences, c'est vraiment souvent le premier lien du patient avec l'hôpital. Et donc là, bah, vraiment, je me suis souvent posé la question, je fais, là, en tant que soignante chrétienne, qu'est-ce que je fais pour pouvoir aimer cette personne, lui montrer qu'elle a de la valeur, et en même temps, bah, il faut que le soin soit fait. Alors il y a parfois des choses comme des sutures à faire, ou du plâtre, mais il y a parfois aussi bah, un examen long. Donc ça dépend si c'est un patient, une patiente très très âgée, qui vient pour des maladies chroniques, qui se sont déplacées, ou si c'est un soin technique rapide qu'il faut donner, tout en sachant qu'en fait, on n'est pas seul non plus. Mais, je comprends que dans cette... il y a cette tyrannie, cette pression aussi du reste de l'équipe qui est là. Mais dépêche-toi, on a besoin de la salle parce que... Et donc, je comprends ton souci. Et
ton souci, je pense qu'il va là. Moi, je prends les urgences, donc pas trop parler pour les autres services, mais quand on a nos collègues au téléphone, on voit bien que ça reste pareil. Enfin, je veux dire, parce que quand on est médecin, tous les gens nous parlent de leur expérience à l'hôpital. Ils sont en général mauvaises. Donc, aux urgences, en tout cas, parce qu'ils ont attendu, en général, ce qu'ils ont attendu, c'est plutôt bon signe, mais bon. C'est jamais très positif parce qu'ils ont attendu, parce que les examens prennent du temps, parce qu'ils ont attendu pour voir le médecin, ils ont juste 4 minutes, 30, il était pressé. Et puis à l'hôpital, c'est pas bon, c'était une chambre double. Il y a plein de choses, des petites choses, mais qui font que le confort du patient, en fait, même s'il ne vient pas pour un truc grave, parce que c'est pas forcément grave, on reste 4 jours et puis après on sort. L'expérience du patient n'est pas agréable, et en plus de la maladie. Parce que dans les services, ils n'ont pas le temps de faire manger les gens, ils n'ont pas le temps de leur donner la douche, ils n'ont pas le temps. Et en fait, c'est des choses qui qui font partie de la dignité humaine, en fait. Mmh. Et on nous donne pas les moyens de le faire. Et du coup, on se retrouve maltraitant. Et après, les gens nous disent à l'hôpital, les gens s'en fichent, les gens sont maltraitants. Les gens... Mais non, les gens s'en fichent pas, les soignants s'en fichent pas. Alors bien sûr, après, il y a des niveaux. Mais ce que je pense, c'est que on nous apprend une théorie qui est hyper belle, avec plein de choses. Enfin, quand on t'écoute, tu as envie de dire qu'il faudrait des unités thrombolytiques dans tous les services. mais bien chez nous, bien vraiment. Mais il y a un décalage entre la théorie qu'on nous apprend, comme l'information claire, loyale, appropriée, la consultation d'annonce, où on débranche le téléphone. On ne peut pas débrancher le téléphone quand on est en urgence. Donc, quand on voit la famille, en fait, ça sonne 5 fois. Et on sait qu'il faudrait pas, c'est pas bien. Mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on a le téléphone des urgences. Donc, en fait, voilà, on est dans une adaptation permanente, un petit peu, où en fait, on sacrifie à la prise en charge idéale des moyens, pour des questions logistiques, pour des questions pratiques. Et ça, c'est terrible pour le patient. C'est pour le soignant.
Je voudrais rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai, Anne-Sophie, c'est Anne-Sophie. Hein. Le manque de temps, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et le burn-out, on dit, c'est souvent la maladie de l'âme en mal de son idéal. Et quand on est confronté sans arrêt à cette réalité, alors qu'on a un idéal de soins, ça use, ça entame. Moi, ce que je voudrais dire peut-être, c'est peut-être réfléchir en termes de qualité de présence plutôt que de quantité de présence. On ne peut pas accorder une demi-heure à ce patient, mais peut-être qu'on peut passer 5 minutes en le regardant dans les yeux, en se mettant à sa hauteur, en essayant vraiment d'écouter ce qu'il a à dire. Et parfois, on peut passer, des soignants peuvent passer 20 minutes, 25 minutes dans une chambre, mais en réfléchissant, mince, il ne faut pas que j'oublie, je dois aller à la banque demain. Ah, puis alors, mon petit qui a la crève, il faut que je prenne un rendez-vous. Et on n'est pas disponible pour l'autre. Et on peut passer une demi-heure dans une chambre sans prêter attention ou être en train de parler avec sa collègue de son week-end, pour toi. Et pourtant, on peut passer peut-être 5 minutes en se concentrant sur la personne veut nous dire, et c'est une qualité de présence qu'on offre là. L'écoute active, elle n'est pas obligatoirement dans une quantité de temps, de minutes qu'on donne, mais simplement dans ce qu'on offre comme disponibilité. Et on n'est pas toujours disponible. Et ça, je voudrais dire, quand on ne se sent pas d'écouter quelqu'un en souffrance, eh ben, il ne faut pas y aller. On peut aller pour autre chose ou simplement dire, écoutez, là, je ne peux pas. Peut-être que j'essaierai de revenir par la suite. Mais il ne faut pas donner au-delà de ce qu'on peut. Il faut aussi pouvoir s'écouter, écouter son baromètre. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que on voudrait, dans son idéal, donner une égalité de soins. Alors, je consacre un quart d'heure à cette personne, un quart d'heure là. Mais on ne serait pas juste. On ne serait pas juste pour les personnes parce que ça ne correspond pas à leurs besoins et ça n'a pas de sens pour nous. Par contre, de parler d'équité de soins, c'est-à-dire donner des soins proportionnés. Cette personne-là, bah, je sens que ça va aller, ce n'est pas si grave que ça, elle va bientôt pouvoir rentrer, je vais juste lui consacrer 5 minutes. Par contre, cette personne-là, il y a un diagnostic qui est suspendu pour elle, elle est dans une angoisse terrible, je vais lui consacrer plus de temps. Et là, on répond à un besoin, on est moins frustré parce qu'on n'a pas à donner du temps qu'on n'a pas pour les autres. Mais on répond à des besoins. Et des fois, je pense qu'il faut qu'on se positionne un petit peu en soignant qui donne des soins proportionnés aux besoins. Et souvent, les patients dans des services où c'est même aux urgences, hein, quand ils sentent que les soignants courent partout, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de revenir tout à l'heure, je vais me débrouiller. Ils le disent, hein, je sais pas si tu as des fois des patients, peut-être pas beaucoup aux urgences, hein, mais quand les soignants courent partout, les patients, même dans les chambres portes fermées, ils le sentent. Et donc, ils se mettent peut-être un peu plus dans un coin, ils attendent. C'est pas grave, vous reviendrez tout à l'heure, j'ai pas besoin tout de suite. Et donc, je pense que des fois, on peut expliquer, écoutez, je ne peux pas vous consacrer beaucoup de temps, mais je vais essayer de revenir tout à l'heure ou je reviendrai dans une demi-heure. Et je pense que répondre aux besoins de façon proportionnée, c'est peut-être plus, ça correspond plus à ce qu'il faut.
Je voudrais juste ajouter à ça que Vous avez quand même une plus-value en tant que soignant chrétien, qui est l'esprit qui vit en nous, et que l'esprit sait mieux que nous les besoins de l'autre, et que si à deux personnes qui ont des besoins égaux, je ne sais pas à qui je vais donner plus de temps, bah, peut-être aussi on peut demander à celui qui sait tout. Enfin, se laisser inspirer dans sa conduite, c'est pas que se laisser inspirer pour les bonnes actions, c'est aussi se laisser inspirer pour le temps qu'on donne, et le temps qu'on distribue à chacun. Et enfin, pour moi, l'exemple suprême, bien sûr, c'est Jésus. Mais il passe à Bethesda et puis il dit, bah, tiens, celui-ci. Il y a tous ces gens-là qui sont malades, celui-ci, je vais aller le voir, celui-ci, je vais le guérir. Mais enfin voilà, c'est aussi notre. On peut faire du soin. Voilà, on discute de comment on fait du soin bien. En tant que chrétien, on peut faire du soin spirituel.
Et moi, je suis persuadée, Anne-Sophie, que tu es une très bonne soignante. Et tu, si tu rentres chez toi, ne te dis pas que ce n'est pas le cas. Parce que je pense que même si tu penses des fois que tu as peut-être beaucoup de frustration par rapport à tout ce qu'il y a à faire, mais je pense que tu donnes de toi et ça doit se sentir. Et ben, on fait ce qu'on peut, comme on peut, avec ce qu'on a. Voilà.
Merci.
Et je pense qu'en libéral aussi, on a le même problème.
Hein, oui.
Parce que quand tu parlais de un quart d'heure,
égalité des soins.
Égalité ou équité des soins. Et c'est vrai que bah, je parle du libéral en tant que médecin, mais il y a des infirmières libérales, elles ont le même problème, les kinés, enfin, dans toutes les couches
de la santé.
Oui, voilà. On dit, bon, il y a un agenda. 15 minutes, moi je sais que normalement je consacre théoriquement 20 minutes par patient, il se trouve que c'est souvent 25, alors 30 minutes, donc ils attendent, ils râlent, sauf que quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, je m'en fous presque que les autres s'en aillent, parce que je me dis celui qui n'est pas important à ce moment-là, bah, aux urgences on ne peut pas faire ça, tu n'es pas tout le monde, mais c'est vrai que le temps qu'on doit consacrer à une personne qui est en souffrance, je pense que c'est un temps important. Alors peut-être qu'on va consacrer du temps à cette personne plus un jour qu'un autre, parce qu'en médecine générale, ou en libéral en tout cas, on revoit les patients. Hein. Et donc du coup, c'est vrai que merci pour le tuyau que tu dis. Peut-être qu'un jour, on va consacrer un peu plus de temps, un autre jour, on va être en fait, même avec le même patient pour la même pathologie, savoir adapter. Et c'est pas évident, en fait. Mais c'est, merci de me rappeler ça.
Oh, bah avec ça, on va bien dormir. Hein.
De quoi il est atteint, ou bien si vous voulez avec un diagnostic, grave. Et je pensais aux parents qui ont des enfants qui sont malades, est-ce qu'il faut cacher, pas cacher, c'était le sujet de ce matin, mais bon, du coup, voilà. Je pense qu'en fait, en tant que parent, qu'est-ce que c'est.
Alors, j'ai pas énormément d'expérience là-dedans, dans le sens où c'est pas moi qui ai traité ces problèmes. Mais j'ai pas mal de témoignages de Marcel Louis Vialard qui du coup est chef de service en soins pas de douleur à Necker. Il lui arrive d'avoir des enfants qui lui disent mes parents pensent que je sais pas que je vais mourir, mais je sais très bien, et ils savent beaucoup de choses et ils réfléchissent beaucoup à la mort, toutes les données, tant de couteaux. Alors, j'ai pas fait de bibliographie extensive, mais toutes les données tendent à dire qu'ils sentent qu'on leur cache quelque chose et ils sont capables de faire face à la mort, peut-être mieux que nous. Et au contraire, on se retrouve dans une. De briser la relation si on va mourir et qu'ils n'auront jamais pu discuter de sa mort.
Voulant savoir plus là-dessus, il faut lire Eric Emmanuel Schmitt, un petit ouvrage qui s'appelle Oscar et la Dame Rose.
Ah oui, un bijou.
Et c'est fait.
Et ça se lit
Ça, c'est très bien.
En une soirée.
C'est gros, mais c'est petit. C'est vrai.
Je vais le relire, tiens.
De toute façon, de manière générale, en fait, on peut toujours essayer de cacher des choses aux enfants. Hein. Ça marche pas. Hein.
T'as essayé.
Mais quand tu connais, c'est vrai qu'avec notre visage, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Ça marche pas.
Quelqu'un a quelque chose à dire qui brûle dans
son cœur, il ne peut pas partir sans. Sans le lire. Aussi bien de votre côté que de l'autre. Je voudrais juste dire une chose, c'est que lorsqu'on délivre un message, le verbal ne prend que 7% de ce qu'on délivre. Et le non-verbal, 55%. Et donc, il reste 38, je crois. 38% le paraverbal. Le non-verbal, c'est la manière de se tenir. Hein. Si je vous dis, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, ou si je vous dis, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, vous ne recevez pas le même message. Et donc, tout ça pour vous dire que votre corps parle bien plus que des mots. Donc, c'est important d'essayer d'avoir une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. Parce que le patient, il voit tout de suite ce que dit notre corps. Voilà, je voulais juste vous dire ça.
Petite anecdote, j'appelle régulièrement pour des résultats de bilan, et notamment les résultats de dépistage de la trisomie 21, et cette patiente, que je savais très angoissée des résultats, il se trouve effectivement que son résultat n'était pas si génial que ça, mais je m'efforce toujours pour ne pas les inquiéter, déjà de ne pas les appeler avant le week-end, à un moment où elles sont plus ou moins joignables, c'était un lundi matin, je savais qu'elles revenaient de vacances ce jour-là, et donc dans mon message que je laisse sur le répondeur, sans stipuler rien du tout, je m'efforce d'être la plus souriante et joviale possible, parce que je voulais pas que dans l'intervalle elles s'inquiètent, de toute façon il n'y avait pas d'urgence. Et cette dame, elle m'a quand même avoué avoir écouté mon message téléphonique 8 fois, alors qu'elle était dans le train du retour de ses vacances. Pour déceler l'intonation de ma voix, et savoir si c'était grave ou pas. Voilà. Et voilà.
Ça, c'est le paraverbal, l'intonation, c'est le rythme de la respiration.
Le rythme. Notre attitude, en fait, elle est
Ah oui. Combien de fois, en entrant dans la chambre, elle est... Oh, vous êtes souriant, c'est bon.
Mmh. Ah oui. Ah ouais.
C'est ce que j'appelais le climat de la clinique.
Ouais, je pense que le rapport à soi en tant que soignant, quelquefois il faut se reposer. On est tellement usé par ce qu'on fait, mais quand on perd le sens de ce qu'on fait, déjà on perd dans la qualité de soi, on perd dans la qualité de relation. Mais si on arrive à se remettre dans une situation, et je sais que c'est pas facile d'aimer son métier et d'être pleinement confiant de son rôle, le patient le ressent aussi. Et c'est complètement négligé le travail sur soi, nous, qu'on a à faire, et pourtant. Tout part de nous, et si on est des soignants malades, nos mauvaises patients seront aussi.
C'est vrai.
Un soignant on est contagieux. Souffrant, c'est un mauvais soignant. Et c'est pas un jugement moral, c'est juste la réalité. Merci, Luce.
Donc, le mot de la fin, prenez soin de vous. Pour bien prendre et soin de l'autre.
Les soignants sont les pires pour entendre ça.
Ouais.
Ah oui, parce qu'il y a une certaine indécence à reconnaître qu'on souffre.
Ouais, c'est vrai.
Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Dans les hôpitaux, dans les cabinets, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés, les soignants sont les plus mal soignés. Mmh. Et merci d'avoir pris soin de nous, pour qu'on puisse mieux prendre soin des autres aussi. Voilà. Et donc, il me reste à vous remercier chaleureusement. On peut les applaudir.